À quel moment vous avez pris comme ça la décision de faire un festival à Orléans? Et pourquoi Orléans?
Alors, c'est pas tout à fait une décision comme ça d'un seul coup à Orléans. J'ai toujours aimé peut-être enquiquiner tout le monde, donc je trouve toujours qu'il faut essayer de remuer les choses, qu'on peut pas rester comme ça, et que la musique est une chose qui est complètement, comment dire, humaine, qu'on a besoin, dont on a un besoin absolu. Je pense ça depuis mes 9-10 ans. J'avais une maman très organisatrice qui déjà ennuyait beaucoup les gens et remet tout le monde. Mais qu'est-ce qu'ils font? Donc il fallait toujours arranger des choses. Alors, quand j'étais professeur à Toulouse, on avait fait un stage à Saint-Félix autour de Déodat Séverat que j'adore. Et donc, ça marchait très bien. Quand je suis rentrée à Orléans, on a fait un stage beaucoup plus, je dirais, populaire, démocratique. Tout le monde était là. C'était quelque chose d'épouvantable. On faisait du théâtre et on avait investi totalement le conservatoire d'Orléans. À ce moment-là, M. Jean-Pierre Serret était maire. Je suis revenue de Munich avec cette idée de concours. Et je lui ai dit, on peut faire une fusée à plusieurs étages. À la fin du stage, comme j'ai beaucoup de nationalités différentes, on fait un concours. Et il m'avait dit, Françoise, ne touchez pas à votre stage. Marche très bien. Donc, proposez-moi autre chose. J'ai proposé à ce moment-là un concours autour de la musique de 1900 à nos jours. Ce qui est très hypocrite, parce qu'on entend effectivement du Rachmaninov à côté de Boulez. C'est peut-être ça d'ailleurs qui fait que le concours est si drôle, si amusant. Bon, donc, vous voyez, c'est venu très naturellement. Et après, je profite d'une ville qui est accueillante à sa façon. Peut-être les gens sont plus bourrus qu'à Toulouse, mais les portefeuilles sont ouverts, les frigidaires sont ouverts, les lauréats sont promenés, on les rencontre dans les restaurants avec leur famille d'accueil très fière, et moi je suis très fière de cet accueil, je trouve ça formidable. Et il y a de ce fait, comme on tient quand même depuis 94, curieusement un public s'est fait, les gens sont tout de même extrêmement attentifs à ce qui se passe et exigeants. Et les jugements des gens qui sont dans la salle, et certains que je connais, rejoignent souvent les sentiments du jury, très souvent.
Presque 20 ans?
Ça fait plus de 20 ans, puisque c'est 94. En fait, 89, l'idée, la réunion des sponsors divers et nombreux, donc voilà, ce qui n'est pas si facile. La première réalisation, 94, et nous sommes en 2016.
Beaucoup d'internationaux qui sont présents, on voit la présence des musiciens asiatiques. Et quelle est l'impression que ça vous fait de voir ces musiciens avec une dextérité, un savoir-faire absolument étonnant?
Qu'est-ce que l'impression que ça fait au public ou...
Mais à vous-même, dans votre expérience, dans votre histoire?
Alors, attendez, j'ai 22 élèves à l'école normale, dont une bonne dizaine de Coréens, d'Asiatiques. Donc là, c'est un problème peut-être de société. Nous avons perdu l'habitude en France de pousser des enfants jeunes. Et en Corée, que je connais bien, au Japon, on continue à penser, ce qui est d'ailleurs ma pensée, finalement je suis plus proche d'eux, qu'un enfant auquel on confie un piano et la façon de s'en servir, eh bien, il a ça toute sa vie. C'est un instrument de base. Alors, ils n'en font pas exactement ça. Il y a une émulation, il y a un besoin de concourir, qui existe beaucoup dans ces pays-là, ça c'est certain. Donc, ils arrivent, ils ont des moyens formidables physiquement, ça c'est évident, ils ont une intelligence, bon, ils avalent tout ça. Moi, en musique contemporaine, rien ne me gêne. Je suis plus réticente sur certaines partitions où il y a un problème quelquefois religieux, puisque beaucoup de musiques européennes sont basées sur la religion. Or, ça n'est pas du tout leur religion. Il suffit de faire un effort et de parler avec eux, et on arrive. C'est le besoin de se sacrifier qui est très, disons, européen, enfin, nos religions, n'existe pas. La sérénité, là-bas, quand on parle de la sérénité dans le plus sens, très difficile à expliquer à quelqu'un auquel on a plutôt inculqué le fait de ne pas avoir pour pas souffrir. Ce sont des hommes et des femmes, donc tout le monde souffre même façon, ils comprennent très bien, ça va très vite. Non, j'ai une admiration folle pour une exigence et un besoin de comprendre. Et ils viennent avec vraiment les yeux ouverts, les oreilles ouvertes, tout ouvert. Peut-être pas toujours le sens de l'humour, mais ça peut venir. Je parle là de gens jeunes. Je connais des adultes qui sont absolument merveilleux, qui sont des amours extraordinaires, etc. Mais je parle de gens qui viennent comme ça, tout cru, qui disent « je veux savoir ce qu'il y a dedans ». Je joue très bien cette musique. Je veux savoir ce qu'il y a dedans. J'ai souvent cette question à l'école et je trouve ça passionnant. J'ai moins cette question en ce qui concerne la musique contemporaine, peut-être parce qu'elle est contemporaine, donc elle leur convient beaucoup mieux. C'est très difficile pour un être jeune actuel où on essaie surtout de ne pas penser ni à l'amour ni à rien du tout, d'aller voir les grandes sonates de Beethoven, où tout de même, tout de suite, on est obligé de dire qu'il cherchait un peu quelque chose et qu'il se demandait s'il allait trouver, que finalement il disait oh, « je n'ai pas trouvé, mais je ne suis qu'un homme et j'accepte ». Cette acceptation de la souffrance, eux, il faut à l'envers. Donc c'est très difficile. Mais beaucoup de jeunes ne veulent pas. Donc il faut expliquer, il faut dire, voilà, il y a eu une période. Alors le concours est peut-être drôle aussi parce que finalement, on se prend la tête. Hein. Quand même, c'est très difficile intellectuellement. Mais la grande page mystique où on se demande si Dieu existe, il y en a. Barraquet était cela. On l'a entendu une fois au concours. Je signale quand même, est très très bien joué par mademoiselle Delphine Bardin, auquel j'ai une grande reconnaissance. C'est Pierre-Laurent Aymard qui me l'avait envoyé. Il m'avait dit, il y a 60 minutes, elle a 50 minutes de marque. Qu'est-ce qu'on fait? Donc elle était venue, j'avais demandé. Puis elle a fait un premier tour éblouissant. Donc après, on a eu la sonate de Barraquet à 9h du matin. Et je tournais les pages, j'avais des larmes aux yeux. Et ensuite, il y avait un homme qui est merveilleux, qui joue très bien, mais qui jouait malheureusement pour lui son œuvre, puisque vous savez qu'on a des œuvres en création. Et c'était Georges Poulier-Macher qui était président du jury. Et il m'a dit, Françoise, après Barraquet, il avait l'air de jouer au ping-pong.
Justement, quand vous parlez de Delphine Bardin, effectivement, je l'avais moi-même entendu, j'avais été absolument surpris en me disant, mais mon Dieu, c'est une musique évidente.
Quand Pierre-Laurent m'a téléphoné, il m'a dit, j'ai une élève qui dort avec la sonate de Barraquet sous l'oreiller, est-ce que vous acceptez qu'elle vienne passer le concours? Sous ses doigts, oui, il y a une évidence. Elle joue pas comme moi, elle joue pas comme Frédéric de Berger, elle joue pas chacun. Mais c'est quand même une sonate, justement, qui amène ça. Je trouve plus que beaucoup de partitions très contemporaines où il faut surtout faire le texte. Alors le texte jaillit, il peut être magnifique. Le Barraquet, vous pouvez apporter quelque chose. Il voulait, par exemple, ne serait-ce que le minutage. Il voulait 45 à 49 minutes. Bon, c'est très difficile. Il y a d'énormes silences comme dans Beethoven. Il y a des trémolos, il y a des choses absolument extraordinaires. Puis quelquefois, par exemple, je me souviens d'une séance au Canada où j'avais annoncé 45 minutes et je n'ai fait que 35 parce que le texte m'est vraiment très connu. Donc j'ai marché trop vite dans mon élan, voilà. Et qu'on est venu me demander des comptes montre en main, parce que c'est Canada, écoutez, on a dit 45 minutes, c'est 45 minutes, hein, quand même.
Pour revenir justement à Delphine Bardin, il y a du progrès technique chez l'interprète?
Du progrès technique dans quel sens?
Digital, dans les savoir-faire, est-ce qu'il y a, comment fait-on pour arriver comme fait Delphine Bardin? Est-ce que c'est un travail purement intérieur, ou est-ce que c'est un travail purement pianistique? Les deux, vous me direz.
Les deux, en général, oui. Je pense que il faut peut-être pas préférer prendre le cas personnel de Delphine, qui est une personne qui a vraiment tout. Justement, je ne sais pas si elle se pose même la question et on est pris dès qu'elle joue quelque chose. Mais disons de l'ordre normal, dans l'évolution technique générale, oui, il y a progrès, ça c'est certain. Mais en même temps, en 94, Diki Nagano, Shinji Urakabe, justement deux Asiatiques, c'était absolument magnifique, c'était la chance du concours. Je ne sais pas ce qu'on appelle progrès. On apprend plus de choses pour les enfants maintenant. Il y a eu un gros progrès de ce côté-là, de techniques comme les courtables ou des choses comme ça. Et voilà, donc les petits-enfants qui viennent au concours junior, ils ne montrent pas les octaves ni les jeux du poignet, mais ils montrent ce qu'ils ont dans le cerveau. Ça, c'est un progrès réel, je pense. C'est le vrai progrès. Hein.
Une dernière question. Quel est le futur pour vous?
J'ai 82. Je ne sais pas. Mon futur, il est très bien. Actuellement, il est aéré. Il est organisé autour de la présence d'Isabella Vasilota, qui va me remplacer, et qui prend le concours avec une énergie, je dirais farouche, et un entraînement, un engagement. Je trouve ça absolument extraordinaire. Je la regarde agir. Je parle peut-être moins maintenant, mais il nous arrive encore de parler beaucoup ensemble, toutes les deux. On est obligé de se donner un ordre pour parler. On dit un peu les mêmes choses. Je pense qu'elle est vraiment sincèrement engagée. C'est ça l'avenir. C'est formidable.
Merci Françoise.